RCF.
Et c'est votre programme local qui revient à 18h10 pour le 18-19 régional. Nous retrouvons Jean-Pierre Benoît et Alexis Claudretz.
Le journal régional, ou plutôt le magazine régional. Le journal régional, ça sera à 18h30. Rendez-vous, Alexis. Alexis, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous.
Bien entendu, nous allons retrouver nos chroniqueurs habituels. Robert Auverger est avec nous, on aura l'occasion de le retrouver dans une poignée de secondes. Je suis un petit peu fâché avec les prénoms aujourd'hui, Alexis.
Non mais il n'y a pas de problème Jean-Pierre, ça arrive,
ça des va fois revenir, c'est comme ça.
Puis, il faut dire, vous voyez tellement de monde, tellement de têtes, qu'à un moment donné, on s'y perd un petit peu.
Et puis, il faut dire aussi que nous avons... des stagiaires, ils sont d'ailleurs très très nombreux.
Effectivement, ils sont au nombre de 3 actuellement. Nos auditeurs ont commencé à les découvrir au fur et à mesure des jours. Nous avons notamment Inès Elgaloussi qui est avec nous. Inès, bonsoir.
Bonsoir Alexis.
On vous retrouvera à l'intérieur du journal régional de 18h30 tout à l'heure, tout comme Médina Erich. Médina, bonsoir.
Bonsoir Alexis.
Et vous nous présenterez la météo, on l'espère, sans pluie demain.
Non, logiquement non.
Bon, c'est tout ce qu'on espère, on croise les doigts.
Il faut rappeler, Alexis, que ce sont des étudiantes qui ont une formation et puis qui s'intéressent quand même à la communication.
En première année, licence information communication à l'Institut catholique de Paris, campus de Reims pour être précis. Et puis on a une troisième stagiaire que nos auditeurs d'ailleurs ont aussi découverte il y a quelques jours sur l'antenne, qui s'appelle Ilona, qui elle est en BTS communication du côté de Saint-Michel.
Et elles travaillent toutes d'ailleurs à faire en sorte que le 13 juin, qui est une journée de la fête de la radio, soit une journée réussie. Alors pour ça, il y a toute une organisation, Alexis. Hein.
Effectivement, il y a des... Alors là, c'est surtout Ilona qui est sur ce pôle-là, mais avec un côté où il faut prendre des vidéos, notamment. On peut pas tout dire, Jean-Pierre, parce qu'il faut quand même garder quelques surprises
pour
les personnes qui seront là, mais il y a aussi tout un processus dans les invitations. Enfin, voilà.
On
en reparlera prochainement.
On va retrouver Robert Auverger dans un instant avec son émission du mercredi En un mot. On va l'interroger sur ce mot d'aujourd'hui. Et puis ensuite, bien entendu, on retrouvera le maire
Denis Boudeville, maire de Trépaille dans la Marne.
Maire de Trépaille dans la Marne. Et puis à 18h30, on vous retrouvera, Alexis, pour le journal régional, habituellement, tous les jours de la semaine.
Et puis une deuxième partie d'émission qui sera consacrée à la vie diocésaine, notamment.
Oui, ça sera plutôt en ce mercredi une émission consacrée à la vie diocésaine, avec en particulier Véronique Roland, avec les pèlerinages du diocèse, et puis avec Lucie Pascot et Brigitte Pitois qui parleront du cheval, avec de l'équitation et avec des rendez-vous intéressants.
Eh bien c'est parfait, Jean-Pierre, 18h13.
18h13, Robert, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir.
Alors
à tous.
En un mot, tous les jours, toutes les semaines plutôt, il y a un mot qui vous attire l'attention, qui nous attire aussi parce qu'on essaye de mieux comprendre ce que vous voulez dire. Alors quel est le mot d'aujourd'hui?
Eh bien, un mot que l'on entend souvent et depuis des décennies et qui est toujours hélas d'actualité, c'est le mot grève.
Oui, le mot grève, alors bon, on en parle beaucoup à la SNCF ou ailleurs. Alors, quelle est l'origine de ce mot, puisque on fait un petit peu, j'allais dire, d'histoire, de grammaire, enfin, on traverse les siècles avec
ça. Ben oui. Alors, disons qu'en français, le mot grève, qui vient du latin grava, a tout d'abord désigné un terrain plat situé sur un rivage constitué de sable et de gravier. D'ailleurs, gravier est un mot de la même famille que grève. Alors, à Paris... Au XVIIIe siècle, la berge de la Seine, qui est proche de l'hôtel de ville, était une plage de gravier, donc une grève, le long de laquelle les bateaux de commerce venaient décharger leurs marchandises, et cette berge fut alors appelée port de grève, et l'espace à côté fut appelé place de grève.
Alors, quel rapport y a-t-il entre cette place de grève, avec ces petits graviers là, avec le travail?
Eh bien, sur la place se rassemblaient des ouvriers qui étaient en quête de travail, qui venaient décharger les bateaux.
Donc à l'époque, être en grève, c'était être à la recherche de travail et non pas refuser de travailler.
Tout à fait, le mot grève se répandit et prit le sens du lieu où l'on embauche, lieu où se réunissent les ouvriers sans emploi.
Alors à quelle époque l'emploi moderne du mot grève est-il apparu?
Au début du 19e siècle.
Alors, comment définit-on, depuis ce moment-là, l'expression « faire grève » ?
Depuis lors, faire grève, c'est quitter collectivement le travail pour faire aboutir une revendication, le plus souvent salariale. Alors, cet usage provient donc probablement des ouvriers de la place de grève, qui étaient libres de refuser une offre de travail et qui, de ce fait, pouvaient retourner sur la plage, donc sur la grève, en attendant une meilleure offre. Alors ils s'y retrouvaient pour discuter et puis pour trouver des opportunités, et cela d'ailleurs dans des conditions assez particulières.
Bah, quelles sont ces conditions particulières
dont vous parlez ? Cette place de grève était un lieu où les exécutions de condamnés étaient fréquentes. On y trouvait une potence, on y trouvait un bûcher, on y pratiquait des écartèlements. Les ouvriers se retrouvaient donc entre deux exécutions, deux sentences. Alors un marché s'installera par la suite sur cette même place et le mot gréviste apparaîtra.
Alors sait-on, question du néophyte, sait-on à quelle époque remontent les premières grèves ?
Oui, la plus ancienne grève connue et documentée bien sûr est survenue voilà plus de 3000 ans. C'était au XIIe siècle avant notre ère en Égypte.
Alors quels étaient les acteurs de ce mouvement social ?
Ben, ils étaient des membres d'une confrérie d'artisans qui étaient reconnus pour leur savoir-faire et leur travail sur certains tombeaux de pharaons, tels par exemple celui de Toutankhamon.
Alors pour quelles raisons se sont-ils mis en grève à l'époque ?
Eh bien, loin d'être des esclaves, ces artisans étaient rémunérés en nature par le pharaon qui leur fournissait la nourriture, le tissu et autres avantages matériels.
Alors quel a été le déclencheur de cette grève ?
Eh bien, à cause de plusieurs conflits, les caisses de l'État se vidaient. Alors de ce fait, les artisans n'étant plus payés, ont décidé de faire grève pour se faire entendre. Comme quoi, les motifs de grève de nos jours sont à peu près les mêmes que voilà 3000 ans.
Alors pour ce qui est de la France, puisque on arrive pas au terme de l'émission, mais enfin pratiquement, pour ce qui est de la France, de quand date la première grève connue ?
La première grève connue de l'Hexagone date de 1229. Ce fut la grève de l'Université de Paris qui réunissait des maîtres et des étudiants qui protestaient suite à une violente émeute survenue le soir de Mardi Gras et qui avait coûté la vie à plusieurs étudiants.
Alors le droit de grève, on en parle souvent dans l'actualité. De quand date-t-il tel qu'on le connaît aujourd'hui ?
Bien, il est reconnu comme un droit en France, y compris pour la plupart des fonctionnaires, depuis le préambule de la Constitution de la 4e République, c'est-à-dire depuis le 27 octobre 1946.
Quels fonctionnaires n'en ont pas le droit de grève ? Il y en a plusieurs types de fonctionnaires.
Oui, les fonctionnaires de la police nationale, les magistrats judiciaires ou encore les gardiens de prison.
Qu'en était-il avant le mois d'octobre 1946 ?
Avant cette date, la grève était considérée comme une faute contractuelle et son exercice était passible de sanctions. Par exemple, les lois dites Le Chapelier de 1791 interdisaient les coalitions de métiers et les grèves. Plus tard, en 1810, le code pénal de Napoléon Ier soumettra à l'agrément du gouvernement toute association de plus de 20 personnes et réprimera très sévèrement toute coalition ouvrière tendant à la cessation du travail ou à la modification des salaires.
Merci Robert Revergier d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, ou plutôt dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, nous avons une émission spéciale consacrée à la fin de vie. Mais dans 15 jours, vous avez déjà le mot que
oui,
vous avez évoqué ?
Oui, je pense qu'on parlera de mariage.
Merci Robert, à dans 15 jours. La suite du programme dans un instant.
Le 18-19 sur RCF.
Et la suite du programme à 18h19, Jean-Pierre, c'est toujours avec vous et avec un maire qui vous parle, qui nous parle ce soir, c'est Denis Bouteville, l'édile de Trépaille dans la Marne.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors c'est l'occasion, monsieur le maire, de découvrir la commune de Trépaille, de présenter un peu Trépaille, combien d'habitants, quel type d'habitants votre commune a aujourd'hui, monsieur le maire.
Alors actuellement, et aux tout derniers chiffres qui nous sont fournis comme chaque année, en fin d'année et qui servent à l'établissement des dotations, la commune de Trépaille a 447 habitants. C'est une commune totalement enclavée entre vignes et forêts, puisque sur trois de nos côtés, ce sont les vignes et nous en avons d'ailleurs en intramuros, et sur le quatrième côté, la forêt de la montagne de Reims.
Ah ben c'est une bien belle commune, on imagine. Hein. Les vignes et la forêt. Que demander de plus, monsieur le maire ?
Rien de plus. Le cadre de vie est magnifique et excellent.
Alors, on imagine que dans cette population des habitants de Trépaille, comment s'appellent les habitants de Trépaille, monsieur le maire ?
Alors, ils se nomment les Trépaillottes et les Trépaillots.
Les Trépaillottes et les Trépaillots, eh bien, elles sont vigneronnes, vignerons, viticultrices, viticulteurs. On imagine qu'il y en a quand même quelques-uns.
Ah, tout à fait. C'est la majeure partie des habitants de la commune, hein, puisque comme vous l'avez déjà compris, la spécificité première de la commune, c'est effectivement la viticulture.
Et beaucoup travaillent à la vigne, autour de la vigne, ça fait travailler quand même des personnes, tout cela. C'est quand même le cœur battant économique de la commune.
Tout à fait. Hormis les personnes qui aujourd'hui sont à la retraite, c'est à peu près 80, voire un peu plus de 80% de la population de la commune qui travaille localement, sur place, pour ne pas dire sur place.
Alors vous, Denis Boutteville, monsieur le maire, est-ce que vous êtes maire depuis plusieurs années déjà, ou est-ce que c'est votre premier, deuxième, troisième mandat, où en êtes-vous exactement, monsieur le maire?
Alors, en ce qui me concerne, j'en suis actuellement à mon deuxième mandat, puisque j'ai été élu pour la première fois en 2014. Sachant qu'en amont, j'avais déjà fait un premier mandat en tant que conseiller.
Alors beaucoup de maires qu'on interroge sur notre antenne régulièrement, tous les jours d'ailleurs, nous disent souvent, pour certains d'entre eux, que c'est quand même beaucoup de travail, plus qu'on ne le pense de l'extérieur. Quelqu'un qui fait bien son travail de maire, il est quand même sous pression, sous tension, les réunions, les rencontres, les interpellations, toujours quelque chose à demander, parce que vous êtes à portée de demande.
Je ne vous le fais pas dire, aujourd'hui, pour être maire, pratiquement, si véritablement on veut se donner pour sa commune, pratiquement il faut être en retraite. Ça prend énormément de temps, que ce soit au niveau des charges administratives, tout comme vous l'avez dit, pour les réunions, j'en passe et des meilleurs.
Parce que c'est vrai que quelqu'un qui est au travail, il ne peut fixer des réunions que le soir ou très tôt le matin. Mais vous-même, vous êtes un retraité, monsieur Boutteville?
Oui. J'ai la chance, puisque c'est une chance aussi, d'être à la retraite, ce qui me permet de me donner à fond au profit de ma commune.
Et puis sans stresser, parce que c'est vrai qu'on a plusieurs maires qui ont des activités professionnelles et qui disent on va devoir arrêter de ne pas se représenter la fois prochaine parce qu'on n'arrive plus, et même au niveau du travail, c'est des gens qui sont artisans, qui sont partis, etc. C'est quand même très compliqué, et puis c'est très fatigant parce que les réunions du soir qui succèdent tous les jours parce qu'on n'est pas là en journée. Et alors parmi les projets, est-ce qu'il y a actuellement, monsieur le maire, un ou deux projets qui vous tiennent particulièrement à cœur?
Ah oui, il y en a même un peu plus que ça. La commune a perdu ses deux classes de maternelle en juillet 2022. C'est une volonté du conseil et nous nous sommes regroupés avec une quatrième commune, Petite Loge. Donc de ce fait, il y a tout un bâtiment de plus de 800 mètres carrés datant de la période Napoléon III, 1870 pour être précis, qui est à réhabiliter. Et une réhabilitation d'un bâtiment de genre, ça ne se fait pas comme ça, d'un simple claquement de doigts. Les écoles avaient la chance d'avoir de très grandes cours de récréation et actuellement, nous sommes en train de travailler un partenariat avec Reims Habitat pour de la construction, pour y ramener un peu sur trépaille du locatif, compte tenu du fait que nous sommes totalement enclavés.
Alors c'est vrai que ça aussi, ça permettrait la venue d'une population nouvelle, enfin de quelques habitants supplémentaires. C'est important pour les communes de retrouver aussi des nouvelles personnes qui sont des nouveaux habitants de la commune.
Bien sûr, et notre espoir, c'est de faire venir sur la commune des jeunes, sachant qu'une des difficultés que nous avons, c'est que globalement, une petite partie de nos jeunes sont obligés d'aller voir dans d'autres communes pour y résider, parce qu'il n'y a rien de disponible sur Trépaille. Ces jeunes reviennent malheureusement lorsqu'il y a décès dans la famille, grands-parents, parents, et très souvent reprennent la maison d'habitation. Mais ce n'est pas au quotidien, et heureusement.
Mais c'est vrai que ça peut donner un nouveau souffle, et puis peut-être aussi, mais alors à ce moment-là, s'il n'y a plus d'école, si ça tombe, il faudra en ouvrir des classes maternelles, monsieur le maire. Je dis ça avec de l'humour.
Non, il n'y aura pas de réouverture. En fait, en jeunesse très rapide, nous étions déjà sur un regroupement scolaire de trois communes, Bille, Vaudemanche, Trépaille, les maternelles à Trépaille et les primaires à Vaudemanche. Nous avions tellement peu d'enfants que nous avions fini par avoir une épée Damoclès au-dessus de nos têtes, à savoir, d'un côté comme de l'autre, fermeture d'une classe. Donc nous avons préféré rechercher une quatrième commune pour augmenter le nombre d'enfants et leur permettre d'avoir un enseignement en un peu plus correct. Ce qui n'aurait pas été le cas si nous étions restés avec une seule classe de maternelle qui, elle, aurait été à 2, 3, voire peut-être 4 niveaux.
Alors évidemment, ce que je vous propose, Monsieur Bouteville, parce que le temps passe très vite, c'est qu'on se retrouve pour peut-être d'autres émissions, même en dehors de l'émission « Votre mère nous parle ». Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre projet, l'embellissement de la commune, les fleurs, je ne sais pas, quelque chose? Parce que le cadre de vie compte beaucoup. Et dans les villes de vignobles, je sais que les viticultrices et viticulteurs, ils savent parfois bien arranger quand même leur maison. Hein, c'est en général pas mal.
Oui. Alors, c'est là un sujet je n'ai même pas la peine d'aborder, puisque nous sommes en recherche permanente d'améliorer le cadre de vie de la commune. J'ai toute une petite équipe qui travaille en ce sens, et venez à partir du mois de juillet sur Trépagne, vous y verrez un village totalement fleuri. Et en dehors de ces fleurs d'ailleurs, il faut savoir que sur Trépagne, il y a bon nombre de chemins de randonnée, tel le chemin des loges, l'escapade d'Entrépaille qui permet de découvrir l'architecture de la commune, des sentiers dans les bois, sentiers pédagogiques et bien d'autres encore, promenades de réalisables fléchées sur la commune. Il faut venir nous voir.
Ah ben écoutez, là, on lance cet appel. Moi-même, j'ai dû passer une ou deux fois à Trépagne, mais je vais faire cet effort parce que redécouvrir ces communes qui font des efforts exceptionnels et puis profiter de la découverte de ces vignes, de ces forêts et de ces villages auxquels on est particulièrement attaché. Monsieur le maire, on le refera encore sur notre antenne, on viendra vous voir et puis pourquoi pas d'ailleurs faire une émission, qui sait, même depuis votre mairie, une émission, ça serait pas mal ça d'ailleurs. Au niveau informatique, est-ce que ça passe bien l'internet chez vous?
Alors, la commune est intégralement fibrée depuis 3 ans maintenant. Quand le réseau Orange n'est pas en panne, ça passerait bien. Et je veux juste ramener une petite précision. Trépaille était également une des communes du parc naturel régional de la montagne de Reims.
Ah,
nous sommes
préciser.
D'ailleurs une des toutes premières communes à avoir adhéré à la charte lors de la création du parc naturel.
On aura l'occasion d'en parler, Denis Bouteville, maire de Trépagne. Merci en tout cas d'avoir été avec vous et à bientôt sur RCF. Au revoir.
Merci Jean-Pierre, au revoir et puis bien au plaisir de se retrouver. Au revoir.
18h28 sur les ondes de RCF, Jean-Pierre.
Ah bah oui, j'attendais la petite virgule maintenant après
ouais,
le sujet.
Mais y a peu, vous savez Jean-Pierre, quand on s'approche 18h30, vous savez c'est quand en forgeant qu'on devient forgeron, comme
oui,
on dit.
Oui, mais on peut quand même faire un petit teasing, même si on a quelques secondes, parce que vous verrez qu'on aura fini encore bien avant. Vous,
non, non, mais on peut faire le teasing.
Le petit teasing, c'est de rappeler qu'on parlera
mais
tout
jamais
à l'heure.
Pour être technique, Jean-Pierre, il n'y a jamais de virgule après le deuxième sujet le soir.
On a le cinéma et les jeunes, puisque c'est le Festival de Cannes en ce moment. Et c'est Suzanne Joss qui va proposer une chronique de 240 secondes. Et puis on reviendra sur la vie diocésaine avec des pèlerinages qui ont lieu un peu partout. Et puis on parlera d'équitation tout à l'heure avec Lucie Pascot et Brigitte Pitois. En attendant, 18h29, c'est l'occasion de retrouver le journal régional avec Alexis Claudrette.
Les titres de ce mercredi 22 mai, un nouveau partenariat a été signé entre le Césaire Grand Est et l'UCIA de Chalon, organisatrice de la foire de Chalon, une signature qui a pour but de préparer le prochain colloque annuel Césaire au Capitole. Demain sera lancé le festival Orbis Pictus, d'abord à destination des scolaires et des groupes, avant une ouverture au grand public vendredi. Nouveau zoom sur cette 15e édition.
Merci. RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Dans le cadre de la 78e foire de Chalon, qui se tiendra du 30 août au 9 septembre au Capitole en Champagne, le Conseil économique, social et environnemental du Grand Est a souhaité renouveler son agora ou encore son colloque annuel en signant le 14 mai dernier une nouvelle convention de partenariat avec l'UCIA de Chalon en Champagne, organisateur de cette seconde foire agricole de France. Il sera question de l'économie sociale et solidaire comme vecteur de développement pour les territoires ruraux, comme nous l'explique la présidente du Césaire Grand Est, Marie-Claude Briet-Clément.
Cette thématique, elle s'inscrit dans la suite de nos travaux sur la question des ruralités. L'ensemble de nos agora dans la foire de Chalon, hein, deuxième foire agricole de France, tourne depuis plusieurs années autour de ces questions liées à la ruralité. Et dans le cadre de la contribution que nous avons faite pour l'adoption du pacte des ruralités par le Conseil régional, nous avons pointé l'économie sociale et solidaire était une véritable opportunité en s'appuyant effectivement sur des exemples forts, sur des modes de gouvernance qui permettent du développement économique. Je pense au pôle européen du chanvre, qui est sous forme de coopérative et qui, pour pouvoir passer à la vitesse supérieure, s'est transformé en SIC pour pouvoir effectivement avoir autour de la chanvrière tout un pôle regroupant d'autres entreprises, mais aussi des universités, mais aussi des élus. Et donc, on est bien dans des formes de gouvernance de l'économie sociale et solidaire qui favorisent au niveau du milieu rural un développement économique.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. L'Agora du Césaire aura lieu le mercredi 4 septembre à partir de 10h, espace Palme d'Or, dans le cadre de la 78e foire de Chalon. Décidément, j'ai du mal avec ce chiffre ce soir, le 78. En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir d'ici le mois de septembre. Dans les préoccupations de nos confrères concernant l'actualité et des questions que peuvent se poser la population, on a remarqué, ça ne vous a certainement pas échappé, Jean-Pierre, que des avions militaires survolaient le territoire assez bas ces derniers jours. Inès El Galoussi, vous nous en dites plus.
Oui, effectivement, c'est le cas. Hier, l'armée belge a commencé son exercice Stormtide qui se déroulera jusqu'à samedi dans l'aéroport de Paris-Vatry dans la Marne. Cet exercice vise à procéder à l'évacuation de concitoyens d'une zone de crise. Ainsi, une quarantaine de vols est prévue par jour. Environ 900 soldats de la composante terrestre, aérienne et médicale s'entraînent. Ils procèdent à l'évacuation de concitoyens d'une zone de crise. 1500 figurants sont mobilisés ainsi qu'un important dispositif matériel. Le but pour les militaires est de s'entraîner à faire évacuer des ressortissants et d'arriver sur un aéroport classique. L'armée belge réalise cet exercice tous les ans.
Merci Inès pour ces explications. Nouveau focus ce soir sur le festival Orbis Pictus, le 15e du nom, coup d'envoi demain jusqu'au 26 mai. Il s'installera quartier Forum, centre historique de Reims, pour un rendez-vous attendu entre artistes et public avec une nouveauté en 2024. Le festival ouvre d'abord ses portes aux scolaires et aux groupes ce jeudi et vendredi, puis une quinzaine de compagnies de marionnettes contemporaines envahiront le Forum, du Cryptoportique au musée Hôtel Le Vergeur. Également une nouvelle figure décroche de la façade de la cathédrale Notre-Dame de Reims déambulera dans les rues du centre. On aura donc cette année non pas une, mais deux gargouilles. David Girondin-Moab, co-directeur du Jardin Parallèle, structure qui porte Orbis Pictus.
C'est un projet indépendant du festival qu'on avait imaginé il y a 2 ans exactement. Et on a commencé par créer une gargouille qui se manipule à 6 ou 7 personnes, qui sont des amateurs, hein, qui sont des gens qu'on forme à ce moment-là pour la manipulation de cet objet, qui est une gargouille qui déploie ses ailes et qui vole un peu à travers la ville. Et on a créé cette année un autre personnage qui s'appelle Ève le Serpent ou la femme au basilic. Elle a un peu plusieurs noms comme ça. Et c'est un personnage avec une espèce de dragon dans les bras et qui va pouvoir se déplacer. Un personnage à taille réelle. Alors à taille réelle de la statue de la cathédrale, c'est-à-dire un peu moins de 3 mètres. Et donc cette marionnette géante qui va pouvoir se déplacer dans la ville. C'est le deuxième personnage de 7 figures qu'on voudrait créer en marionnette géante de la cathédrale.
Un événement marionnettique qui puise sa force dans le rythme des parcours, la richesse de la balade et la qualité des découvertes que suscitent spectacle et patrimoine vivant, avec quelques informations pratico-pratiques à vous donner.
Vous pouvez tout retrouver sur le site, mais effectivement, les spectacles du Cellier peuvent se réserver, ils sont payants, Donc on peut réserver au cellier lui-même, hein, c'est des spectacles qui sont payants, mais je crois que c'est 5 euros la place, c'est quelque chose d'assez raisonnable. Là vous pourrez retrouver également les horaires, ça joue de 9h15, 10h30, 15h, il y a 3 horaires dans la journée, donc il y a vraiment possibilité de s'inscrire assez facilement. Et puis le reste du festival est en entrée libre, est en prix libre même si on veut, mais entrée libre, prix libre, voilà, en tout cas accès libre pour ces spectacles dans le jardin du musée Hôtel Le Vergeur et dans le cryptoportique, c'est-à-dire vraiment à l'intérieur du cryptoportique. Il y a aussi un spectacle qui jouera sur la scène du cryptoportique à partir du vendredi soir.
Des propos recueillis au micro de RCF France Ardennes avec David Girondin-Moab, donc co-directeur du Jardin Parallèle, structure qui porte ce festival Orbis Pictus qui démarre demain 18h35. Place à la météo avec Médina Erich. Bonsoir Médina.
Bonsoir Alexis.
Quelles sont les tendances pour demain en Champagne-Ardenne?
Tout d'abord, ce soir dans les Ardennes, la nuit sera claire et les températures seront assez douces, allant de 11 à 12 degrés à Sedan et Charleville-Mézières. En Marne, nous nous endormirons sous un ciel voilé et il fera 12 degrés pour l'ensemble du département. En Haute-Marne, à Saint-Dizier, les températures se réchaufferont pour offrir un joli 19 degrés. Dans l'Aube, nous retrouverons des températures entre 11 degrés à Arcis-sur-Aube et 12 degrés à Romilly-sur-Seine, accompagnées de quelques nuages. Demain matin, le ciel sera nuageux sur l'ensemble des départements et les températures auront légèrement augmenté, notamment dans les Ardennes où il fera 13 degrés à Sedan et Vouziers et 14 degrés à Rethel. Dans la Marne, les températures seront similaires, allant de 13 degrés à Épernay jusqu'à 15 degrés à Reims. Quant à la Haute-Marne et l'Aube, il fera 14 degrés sur l'ensemble de ces territoires. Concernant le temps de demain après-midi, ce sont les orages qui couvriront la totalité des départements et les températures augmenteront de nouveau. Dans les Ardennes, il fera 18 degrés à Charleville-Mézières et 19 degrés à Rethel. Dans la Marne, les températures seront tout aussi agréables autour des 20 degrés à Châlons-en-Champagne et Épernay. Il en va de même pour les départements de la Haute-Marne où un joli 19 degrés régnera sur l'ensemble du département. À présent, dans l'Aube, vous profiterez de douces chaleurs allant de 18 degrés à 3 jusqu'à 19 degrés à Bar-sur-Seine et Arcis-sur-Aube. Demain, nous souhaiterons une joyeuse fête au Émile et en attendant, je vous souhaite une agréable soirée.
Merci Médina, en avance une bonne fête au Émile. Effectivement, 18h37, on vous souhaite nous aussi une bonne soirée. C'est ainsi que se referme ce journal de 18-19 en Champagne. Continue sur RCF avec une deuxième partie d'émission consacrée notamment à la vie diocésaine, mais pas que.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
18h37, mercredi, ce sont des nouveaux films, mais c'est aussi en ce moment le Festival de Cannes. Et tout de suite, on part au cinéma en 240 secondes avec Suzanne Joss.
Bonjour à tous, c'est Suzanne. Je vous souhaite la bienvenue dans 240 secondes, l'émission qui met la jeunesse à l'honneur en 4 minutes. Nous sommes en pleine période du Festival de Cannes et pendant que les stars défilent sur la croisette, nous allons nous intéresser au rapport des jeunes avec le cinéma. Les jeunes sont-ils retournés voir des films sur le grand écran? Après le confinement, il semblerait qu'ils avaient déserté les salles et qu'ils préféraient regarder des films en streaming. Mais la tendance s'est-elle inversée depuis? Ma génération est-elle retournée voir des films? Nous allons étudier dans cet épisode la relation entre les jeunes et le cinéma, les films qui les séduisent, comment ils sont mis au courant des nouvelles sorties, est-ce qu'ils préfèrent le pop-corn sucré ou salé? C'est parti pour discuter de tout ça pendant 240 secondes. Alors si vous êtes prêts, top chrono! Oui, la fréquentation des cinémas par les jeunes a augmenté après la pandémie. 22% des 15-25 ans déclarent aller au cinéma au moins une fois par mois, selon une étude commandée en ligne par le Média Brut. Si les jeunes vont au cinéma, c'est surtout pour partager un moment de sociabilité avec leurs amis, l'occasion de partager un bon moment, de se forger des souvenirs et aussi de pouvoir débattre de la qualité du film sur le chemin du retour à la maison. Ils profitent aussi de la qualité des images et du son, qui sont bien moins appréciables lorsqu'on regarde un film sur son ordinateur. D'ailleurs, selon cette même étude, 43% des jeunes iraient voir un film en salle même s'ils passaient en même temps sur une plateforme de streaming. Preuve que la jeunesse connaît les limites du streaming et qu'elle a conscience que de voir un film au cinéma reste le meilleur moyen de l'apprécier. Et d'ailleurs, quel est le comportement des jeunes devant un film? Eh bien, près d'un quart des jeunes regardent parfois leur téléphone pendant une séance. Et je dois dire que je fais moi-même partie de cette catégorie. En même temps, c'est tentant de jeter un coup d'œil sur son portable, surtout si le film s'avère être un peu ennuyeux. Mais ce qui pousse les jeunes à se rendre au cinéma, ce sont en fait les bandes-annonces et aussi les vidéos promotionnelles diffusées sur TikTok et Instagram. Les vidéos postées sur les réseaux sociaux sont des éléments déclencheurs qui donnent envie à la jeunesse de se rendre au cinéma. On se souvient de la promotion autour du film Barbie, les articles, les documentaires, les vidéos qui étaient présentes partout sur la toile. Eh bien, cela a marché, puisque Barbie est le deuxième film le plus vu en France en 2023. Le principal frein qui fait que les jeunes ne vont pas au cinéma, c'est le prix du billet. En France, le prix moyen d'une place de cinéma est de 11,28 €. Et bien sûr, les étudiants ont accès à des réductions. Et l'avènement du pass culture a permis de démocratiser le fait d'aller au cinéma. Mais cependant, n'oublions pas que tous les jeunes ne sont pas étudiants et que le pass culture a une durée de 24 mois. Après, c'est le retour à des places de cinéma à prix fort. À Dijon, le prix moyen du billet est de 10,50 €, il est de 9,50 € pour Reims et de 12 € à Paris. Et pour ce qui est du pop-corn, j'ai retourné internet pour savoir lequel des deux, entre le pop-corn sucré ou le pop-corn salé, était le plus vendu, et il s'avère qu'aucune étude fiable n'a été réalisée sur le sujet. Quelle surprise! Mais à titre personnel, je préfère mille fois le pop-corn sucré, évidemment. Les 4 minutes se sont écoulées, merci de les avoir passées avec nous et on se retrouve la semaine prochaine pour passer à nouveau 240 secondes ensemble sur RCF.
À 18h41, on retrouve la vie diocésaine tout de suite avec Véronique Roland. Elle habite un petit village à côté de Vouziers. On la retrouve tout de suite. Véronique Roland, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que vous êtes avec nous pour évoquer deux rendez-vous, le pèlerinage de Béron qui s'est achevé le lundi de Pentecôte et puis le pèlerinage à Paray-le-Monial qui va démarrer le 26 mai prochain. Alors d'abord un petit coup de projecteur sur l'événement, ce pèlerinage diocésain de Béron, le lac de Béron, c'est dans votre espace missionnaire, ça a été pour vous quand même un très très beau moment.
Une grande préparation et beaucoup de bénévoles, beaucoup de fraternité, beaucoup de joie, une grande cousinade à l'appel de notre évêque autour du lac de Béron. Voilà.
Il faut dire que l'espace missionnaire sud s'était particulièrement impliqué.
Oui, tout à fait, tout à fait. La partie vousinoise, Providence vousinoise à Tigny, la Trinité des Monts, voilà.
Alors tout ça a créé quand même une ambiance tout à fait particulière. Vous avez rencontré des gens de votre espace missionnaire, vous en connaissiez beaucoup, peut-être pas tous, mais vous les connaissiez. Et puis une rencontre diocésaine quand même, quand même au bord du lac. Alors il y avait quand même là le signe d'évangile hein, autour du lac.
Oui, oui, l'espace missionnaire donc se réunissait dans la grande salle multisport de Béron, mais il faisait si beau que on était tous aussi un petit peu dehors autour du lac à marcher pour certains et puis d'autres aussi à louer. En fait, délivrer, distribuer, on en a 1500 personnes. 1500 personnes sont arrivées.
C'est quand même impressionnant. Vous avez fait des connaissances quand même. Vous connaissiez beaucoup de monde, bien sûr, de l'espace missionnaire, mais vous avez quand même connu d'autres personnes.
Oui, à force de se réunir dans l'espace missionnaire, là, on arrive à retrouver des personnes, et même de Reims ou des conseils d'animation d'autres paroisses. On essaye de communiquer avec tous ces espaces missionnaires, voilà.
Oui, et c'est un grand moment que vous avez vécu, c'est ça en résumé, pour vous-même.
De joie, de prière, de partage sur les évangiles et pour cause du lac, hein, le lac qui est comme la terre nourricier, quoi. Là où Jésus demande à ses disciples de lancer les filets parce qu'ils étaient désemparés, il n'y avait pas de poisson. Et pour manger, et Jésus leur dit de jeter leur filet à, voilà, et il y a une pêche miraculeuse d'énormément de poissons, voilà.
Alors le lac de Béron, c'est un grand événement, 1500 personnes. Je vous avais apprécié les glaces, hein, je crois, c'est une petite anecdote.
On a goûté les glaces parce que l'archevêque les avait goûtées au mois de janvier lorsqu'on avait fait déjà un événement autour de la filière laitière et de la visite de Nestlé à Challerange. Et puis, bien, on s'est dit qu'on viendrait bien encore manger un petit esquimau vanille ou chocolat.
Un petit esquimau au lac de Béron. Ah voilà. Ben ça, c'est formidable.
Et les galettes ardennaises, on disait tarte au sucre ou galette ardennaise.
Galette à sucre, oui, c'est
voilà,
ça.
Voilà, galette à sucre.
Au sucre ou à sucre. Alors, pèlerinage de Béron, c'est déjà malheureusement derrière nous. Oui. Il y aura bien sûr d'autres rendez-vous l'an prochain, au lundi de Pentecôte. Mais devant nous, le 26 mai prochain, il va y avoir le démarrage d'un pèlerinage diocésain, conduit avec le diacre Christian Devaux, le pèlerinage à Paray-le-Monial. C'est un événement que vous vouliez souligner sur notre antenne, parce que vous-même, vous êtes allé plusieurs fois à Paray-le-Monial. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qu'est Paray-le-Monial, et puis nous dire combien vous allez être à ce pèlerinage?
Donc c'est un jubilé des 350 ans des apparitions du Sacré-Cœur de Jésus. Et le thème, c'est « Rendre amour pour amour ». Et c'est pour commémorer cet anniversaire que le diocèse a prévu un quart de 50 personnes pour aller jusqu'à Paray-le-Monial, en passant par Chaours, en passant la visite aussi de Cluny, à Thésée. Mais tout le monde sera logé à Paray-le-Monial. Donc c'est pour aussi fêter ce grand pèlerinage que nous irons aussi également dans la semaine.
Alors, il faut rappeler le pèlerinage de Paray-le-Monial, c'est bien sûr les apparitions de Marguerite Marie à la coque à Paray-le-Monial. Vous pouvez nous resituer, donc 350 ans, il suffit de faire la soustraction.
Voilà. Siècle, entre 1674 et juin 1675. Elle est apparue en juin 1675 et c'est toujours la solennité qu'on fête aussi au mois de juin. Cette année, ça va être le 9 juin. Donc, cette religieuse visitandine qui est entrée très jeune à la visitation à Paray-le-Monial a voulu ensuite marquer sur un petit carnet toutes ses apparitions, et Saint-Claude la Colombière l'a confessé, a voulu savoir si c'était vraiment pas des hallucinations, hein, c'est quand même important. Et elle a été donc canonisée en 1920. Et en fait, ce pèlerinage revient beaucoup maintenant, parce qu'il y a des sessions de l'Emmanuel tout l'été, avec 4000 personnes. Et là, le recteur et les chapelains ont invité toutes les personnes de tous les diocèses, avec leur archevêque ou leur prêtre, à venir passer ce jubilé. Donc nous, ça sera 4 jours, ça sera du dimanche 26 mai au jeudi 30 mai. Voilà.
6 mai au 30 mai. Alors, oui. on parle beaucoup du Sacré-Cœur de Jésus, hein, aussi,
oui.
là.
Oui.
Il faut bien le préciser, hein.
Voilà. C'est le Sacré-Cœur de Jésus, qui est une dévotion. Le Seigneur a demandé à Marguerite Marie qu'elle répande, qu'elle soit son instrument pour répandre l'amour de son cœur. Voilà. Parce que c'était, au temps de Louis XIV, il y avait beaucoup de messes noires, il y avait vraiment des bouleversements, beaucoup de prêtres, mais beaucoup ne donnaient pas souvent l'Eucharistie. Donc il fallait réparer tout ça, et il a demandé à Marguerite Marie qu'elle soit son instrument pour faire connaître. Voilà, tout cela.
Alors bien sûr, le petit groupe va être très divers, hein, c'est un petit groupe diocésain, ça rappelle un peu Béron d'une certaine façon. C'est pour ça que je vous ai associé aux deux événements, Béron et puis le pèlerinage à Paray-le-Monial. Hein, oui. Ce sont deux événements qui se prolongent l'un à l'autre finalement. Alors écoutez, on vous remercie Véronique Roland d'avoir été avec nous.
Un temps de grâce pour revenir à Dieu et accueillir son amour surabondant, parce qu'il y a les malades qui restent, et je voudrais qu'on prie, que tout le diocèse prie aussi pour ceux qui restent et qui ne peuvent pas partager avec nous ce pèlerinage, quoi, voilà.
Merci Véronique Roland d'avoir été avec nous. Rappelons que vous êtes du côté d'Orfeuil, dans le département des Ardennes, à quelques kilomètres de Vouziers. On vous souhaite bien sûr bon pèlerinage à vous et à tous les diocésains à partir du 26 mai prochain à Paray-le-Monial. On vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt sur RCF. Merci, au revoir.
Au revoir.
Le 18-19 sur RCF.
18h49, RCF Cœur de Champagne, RCF France-Ardennes, ce mercredi dans votre magazine régional. On laisse Jean-Pierre respirer quelques secondes quand même, parce qu'il va enchaîner avec deux nouvelles invitées qui nous rejoignent en studio.
Lucie Pascoe, bonjour.
Bonjour.
Brigitte Pitois, bonjour.
Bonjour.
Alors Lucie Pascoe, vous êtes amoureuse du cheval parce que vous avez, j'allais dire, baigné dans cette atmosphère du cheval et vous vous occupez d'une structure équestre, gérante d'une écurie, l'écurie Lucie Pascoe. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors c'est une écurie qui est située à Étoges où j'accueille 35 chevaux et poneys. Et sur place, donc, on va enseigner l'équitation, tout niveau, toute discipline. Et puis, j'accueille aussi des chevaux en pension. Donc, on s'occupe aussi de chevaux de propriétaires.
Ça doit demander un travail. Moi, je vois les 35 chevaux. Là, je me dis, bon, il faut quand même s'en occuper.
Oui, alors, c'est énormément de travail. C'est environ 6 à 7 heures de soins, juste de soins par jour. Plus, bien sûr, bah, tous les cours et l'accueil du public à côté.
Alors, il y a beaucoup de jeunes, en particulier aujourd'hui, qui s'intéressent à l'équitation et qui s'intéressent au cheval. Vous en accueillez, bien sûr, pour des cours d'éducation.
Oui, oui, beaucoup de jeunes, des tout petits, à partir de 3 ans.
Ils ont les poneys ?
Oui, des petits poneys. Toute la cavalerie adaptée en fonction de l'âge et de la discipline.
Vous-même, vous avez baigné dans cette atmosphère avec des chevaux. Quand vous étiez petite, vous aviez des chevaux autour de vous ?
Oui, donc je suis née dans une maison où mon papa était déjà passionné d'équitation. Donc il y a toujours eu des chevaux à la maison. Et puis je crois que j'ai attrapé le virus et puis il m'a plus lâché. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui et je crois encore pour longtemps.
Donc celles et ceux qui nous écoutent, qui sont passionnés d'équitation ou qui ont des enfants qui voudraient s'y intéresser, eh bien ils peuvent aller à Étoges, dans votre écurie, écurie Lucie Pascoe. Et puis bien sûr, ils seront bien accueillis, vous donnez des cours, vous faites des leçons. Même si vous êtes à Reims, eh bien écoutez, ça vous fera faire un petit séjour, un petit voyage, d'aller à Étoges. Et puis les plus proches du côté d'Épernay et de Châlons, bien sûr, peuvent se déplacer. En permanence, vous êtes sur place.
Oui, il y a toujours quelqu'un. On est 3 à travailler sur la structure. J'ai 2 salariés. Donc voilà, généralement, il y a toujours quelqu'un de présent sur place.
Alors évidemment, il y a des cavaliers de divers niveaux. Vous avez le débutant qui n'arrive pas à monter sur le poney. Et puis vous avez certainement des cavaliers de haute tenue, presque professionnels, peut-être on peut dire.
Oui, alors ça part du débutant, bien sûr, du baby poney, et puis jusqu'au cavalier qui va tourner en compétition, club amateur. D'ailleurs, on organise également des compétitions aussi sur la structure pour ces niveaux.
Et il vous arrive d'avoir des personnes que vous avez formées, qui sont eux-mêmes des gens qui sont dans des concours d'équitation ?
Oui, alors aujourd'hui, ça fait une paire d'années quand même que je suis installée. Aujourd'hui, je suis fière aussi parce que j'ai des petits cavaliers qui ont démarré, ils avaient 4-5 ans et aujourd'hui, ils tournent en compétition, ils ont leurs chevaux, ils sont autonomes et voilà, c'est aussi une fierté d'avoir formé ces cavaliers.
Un petit détail quand même parce que il y a des personnes qui viennent, qui sont en pure santé physique. Il y en a d'autres qui peuvent avoir un petit handicap et vous les acceptez aussi dans votre écurie, Lucie Pascoe ?
Oui, alors en fait, j'ai passé il y a quelques années mes diplômes d'encadrant Equihandy. Et donc aujourd'hui, l'écurie est labellisée pour pouvoir accueillir donc tout ce qui est handicap mental, moteur et sensoriel.
Alors justement, on va revenir à vous dans quelques secondes, mais il existe une association qui s'appelle Cheval pour une vie. Brigitte Pitois, vous en occupez de cette association ?
Oui, je suis la trésorière.
Ah ça, alors c'est le nerf de la guerre. Hein.
Oui,
alors cette association est là pour objet peut-être d'aider celles et ceux qui ont un handicap et qui veulent faire du cheval.
Oui, oui, elle a été vraiment créée dans le but de favoriser l'accès à l'équitation aux personnes atteintes de maladies chroniques, aux personnes âgées, en situation de handicap et aussi aux enfants ou adultes défavorisés.
Et cette association, elle fonctionne régulièrement et il y a des personnes qui, grâce à vous, viennent dans l'écurie de Lucie Pascoe.
Oui, on a plusieurs enfants dont les cours sont pris en charge par l'association. Et puis, on organise un loto, on organise plein de choses pour récupérer un peu d'argent et pouvoir acheter du matériel afin de recevoir les personnes en situation de handicap.
En fait, votre association facilite l'accès à l'éducation pour des raisons aussi financières parfois, parce que tout le monde n'a peut-être pas les moyens de payer des cours. Et puis aussi pour le handicap, parce que on n'y pense pas forcément. Et vous avez un réseau qui s'est constitué.
Bien, le réseau, il s'est constitué aussi grâce à Lucie, puisque elle nous ouvre ses structures pour pouvoir accueillir toutes ces personnes. Et vraiment, on fait des choses formidables. Enfin,
vous avez des exemples de choses un peu spéciales que vous organisez ?
Oui, nous sommes intervenus dans des EHPAD. Nous sommes arrivés avec les poneys et nous avons été visiter un EHPAD à Épernay. On voyait vraiment le visage des personnes complètement transformées, changées. C'était vraiment un plaisir. On a fait aussi des épreuves spécifiques, handisport quand il y a des portes ouvertes ou des journées d'épreuves. Et puis là, bientôt, on fait une journée sclérose en plaques.
C'est le 2 juin.
Le 2 juin.
Il faut s'inscrire. C'est une journée où on va pouvoir accueillir toutes les personnes atteintes de sclérose en plaques et même aussi d'autres handicaps. Et c'est vraiment une journée découverte pour que les gens puissent savoir qu'ils peuvent avoir accès à l'équitation.
Alors pour s'inscrire, eh bien, il suffit de s'adresser à vous. Hein,
oui,
on
bien
trouve
sûr.
Sur Internet, l'écurie Lucie Pasco, eh bien, on vous trouve. Hein,
oui, oui. Tout est
vous voulez ajouter quand même quelque chose sur votre association, Brigitte Pidois ?
Je voulais ajouter que on a besoin d'adhérents. Donc, si quelqu'un est intéressé pour prendre son adhésion, plus d'adhésion on aura, mieux ce sera. Et pour déjà faire connaître l'association et puis en même temps la faire fonctionner.
Alors, vous l'avez évoqué à l'instant à propos des EHPAD. On a vu d'ailleurs quelques images parfois de poneys qui entrent dans l'EHPAD et on voit vraiment des personnes plus âgés, qui retrouvent le sourire. On le voit avec les animaux de compagnie, chiens et chats, qu'on doit accepter souvent maintenant dans les EHPAD. Et pour les enfants et pour les plus jeunes, le cheval, c'est quand même un animal vraiment assez exceptionnel. Certainement au niveau de la relation avec le cavalier, avec ceux qui aiment le cheval. Vous l'avez ressenti vous-même.
Oui, oui, le cheval en fait n'a aucun préjugé. Donc ça, c'est déjà quelque chose de formidable. Et puis, il ressent toutes nos émotions. C'est un cheval, c'est un animal très sensible. Donc, il connaît notre état d'âme à l'instant T. Et ça,
c'est exceptionnel.
Ça, c'est exceptionnel. Et que ce soit pour des enfants avec des difficultés de comportement, que ce soit pour les personnes âgées, et même voilà, pour la vie de tous les jours, de les côtoyer, c'est vraiment...
Une intelligence.
Oui.
Une sensibilité.
Oui, oui, ils sont extrêmement fins et très, très sensibles.
Et vous, les 35 chevaux, vous ne les confondez pas. Chacun a son caractère, chacun a sa façon de faire. Et vous, vous les avez aussi bien photographiés, bien cernés.
Oui, oui, ils sont tous différents, comme chaque être humain, hein, donc avec leur petit caractère, voilà. Et puis, on les a formés aussi, hein, pour tout ce qui est d'ailleurs l'accueil de public handicapé. Donc, voilà, je sais quel cheval je peux mettre à qui, et ils ont tous leur qualité, et voilà, on peut adapter vraiment à chaque personne.
On a bien noté, Lucie Pasco et Brigitte Pitois, qu'il faut aller absolument, nos auditrices et nos auditeurs, à Étoges, à l'écurie Lucie Pasco, que vous soyez en bonne santé, vous aimez le cheval, vous avez des jeunes enfants, petits-enfants, venez-y. Il y a des personnes plus handicapées qui peuvent venir et s'adresser aussi à l'association Cheval pour une vie. Et puis merci d'avoir été avec nous et puis faites-nous une promesse. Dans quelques temps, vous revenez nous en parler.
Promis. Pas de problème, promis.
Et à bientôt sur RCF.
Merci Jean-Pierre, 18h57, ça nous laisse le temps de faire un tour d'horizon des programmes, Jean-Pierre.
Mais au fait Alexis, quelle heure est-il ?
18h57.
Et ça se termine, hein ?
À 19h.
Eh ben vous voyez qu'on a le temps. Mais on a presque 3 minutes.
Jean-Pierre, personne n'avait dit qu'on n'aurait pas le temps. On a juste dit qu'il n'y avait pas de virgule après le deuxième programme du soir.
Oui, mais il fallait faire vite parce que on était bousculés.
Personne ne vous a jamais dit ça, Jean-Pierre.
Ah bon,
on a les bandes, on vous fera réécouter. C'est pas grave. On vous laisse.
Mais de toute façon,
puisque vous avez
ça
deux
nous
minutes.
Donne du temps pour nous dire que demain, on retrouvera le matin Véronique Roland qu'on vient d'entendre il y a quelques instants. Monseigneur Véteux sera avec nous, bien sûr, en direct. Ce sera vendredi matin à 7h et 8h. Et puis nous aurons le magazine du week-end de 11h à midi et de 17h à 18h samedi.
Mais comme nous sommes en région, ce qui intéresse nos auditeurs, c'est aussi ce qui se passe à 18h10. On retrouvera toutes ces personnes, notamment Mgr Véteux, vendredi à 18h10. Demain soir, nous serons aussi avec François Leboeuf. Et puis Jean-Pierre, nous sommes à J-7 maintenant d'une émission spéciale avec Mgr Eric de Moulin-Beaufort.
Ce notamment. Sera la semaine prochaine sur la fin de vie, parce que c'est un sujet de société et qui fera débat avec un médecin, le docteur Jérôme Sainton, avec une psychologue qui sera avec nous, Sandrine Leroy, et puis l'archevêque de Reims, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Et puis vous l'avez rappelé, ça c'est une info, Alexis. Demain, François Leboeuf, il est membre de l'équipe de Saint-Remy, la Basilique Saint-Remy, parce qu'à côté de la Basilique Saint-Remy, il va y avoir plein de chevaux, plein de gens en armure, plein de gens qui vont en général se déguiser, car ce sont les fêtes de Jeanne d'Arc actuellement, et donc il va y avoir énormément de monde. Et puis il y a toujours bien sûr nos stagiaires qui sont étudiants, qui sont avec nous, et je les ai interrogés tout à l'heure, je connais la réponse, mais je vous la pose. Avez-vous encore des examens ?
Non, nous n'en avons plus, oui.
Mais alors, est-ce que les résultats sont connus ?
Pas encore.
Et pour toi, c'est la même chose?
Oui, on n'a pas encore les résultats.
Enfin, c'est bien parti.
Oui, je pense.
Et pour toi, ça sera là combien d'années l'année prochaine?
La deuxième année.
La deuxième année pour toi, là?
Deuxième année aussi.
La deuxième année.
Puisqu'elles sont dans la même classe.
Elles sont dans la même classe. J'avais cru qu'il y avait une classe de différence, mais je me trompe décidément. Eh bien, voilà, Alexis, un beau programme, des beaux invités.
Un beau programme, et on se retrouve demain, 18h10, pour un nouveau magazine régional.
À demain, bonne soirée.